Et la première partie du téléphone sonne, c'est tout de suite.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 donc, qui va ce soir jusqu'à minuit, édition spéciale à l'occasion du dernier débat de la primaire socialiste qui opposera, vous le savez, Benoît Hamon à Manuel Valls et démarrera à 21h. Vous pourrez l'écouter en direct et en intégralité sur France Inter, le voir, le regarder également sur Facebook à la page même de la radio France Inter. D'ici la première partie du téléphone sonne consacrée aux programmes économiques des deux candidats, c'est sans doute sur ce terrain-là que l'opposition entre eux fut la plus flagrante, pardon, elle est résumée de manière caricaturale et polémique comme l'opposition de la gauche idéaliste et de la gauche réaliste en matière économique. Vous avez la parole, toutes vos questions écho jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Mais avant de donner la parole à nos invités ici et de vous la donner, amis auditeurs d'Inter, je salue Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas.
À 21h donc, vous interrogerez avec David Pujadas pour France 2 et Gilles Boulot pour TF1 les deux candidats Benoît Hamon, Manuel Valls. Vous attaquez sur quoi, si j'ose dire? Vous commencez sur quel thème, Alexandra?
Eh bien, on commence sur on a pris vos bons conseils, on commence sur l'économique et le social. Hein, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Il me semble qu'on en a, pas mal dans notre assiette là, entre le revenu décent, le revenu universel, le travailler plus, le travailler moins. Voilà, on commence par là.
Et Gilles Boulot, vous redoutez ou attendez ou espérez, je ne sais pas, une confrontation rude et franche ce soir?
Je m'attends à un choc des idées et des programmes sans doute plus évident, plus aveuglant qu'entre Alain Juppé et François Fillon. J'ai l'impression qu'entre Juppé et Fillon, il y avait des oppositions de style, de langage, mais que fondamentalement, leur ADN était commun. Là, vous le disiez tout à l'heure, gauche réaliste, gauche plus idéaliste, franchement, les lignes de fracture sont assez évidentes. Donc, il y aura forcément des lignes de fracture.
Et il va falloir faire en sorte que tout ça reste civil, David Pujadas.
Oui, mais vous savez, nos amis débatteurs sont des professionnels. Ils savent très bien qu'après la confrontation, il y a, entre guillemets, la réunification, qu'ils devront se reparler après dimanche soir. Même s'ils ne seront jamais les meilleurs amis du monde, même si on imagine mal l'un faire campagne pour l'autre de façon zélée, ils devront quand même se retrouver. Donc je pense qu'effectivement, confrontation d'idées, mais dans une forme qui restera civile, on les voit mal, s'empoigner, s'agresser sur le plateau. Je pense qu'ils veilleront à ne pas faire la faute de quart.
Bon courage à tous les trois. En tout cas, on vous regardera à partir de 21h à la télévision. On pourra vous écouter donc sur France Inter. Vous regardez aussi sur Facebook. Merci David Pujadas, Gilles Boulot, bonne soirée, Alexandra Ben Saïd, pour ces quelques mots donc avant le dernier débat, du second tour. Je vais y arriver, de cette primaire socialiste. Voilà.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Et pour parler économie ce soir, Eli Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, Philippe Ashkenazi, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste au CNRS également, à l'École Normale Supérieure, économiste atterré, auteur de Tous Rentiers chez Odile Jacob. Marion Lourd, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du service éco de la rédaction de France Inter et vous publiez aujourd'hui, chez Jean-Claude Lattès, Dans l'enfer de Bercy, co-signé avec Frédéric Seyss
de France Culture.
Eli Cohen, vous publiez Changer de modèle avec Philippe Aguillon et Gilbert Sette chez Odile Jacob. Bonsoir Dominique Seux.
Bonsoir.
Éditorialiste à Inter, directeur délégué de la rédaction des Échos. Avez-vous trouvé, je me tourne vers vous Eli Cohen, Philippe Ashkenazi, le débat économique riche, fécond dans cette primaire de la gauche? Eli Cohen.
Oui, je l'ai trouvé riche et fécond parce que pour la première fois, on a discuté de perspectives de moyen long terme de développement. On a parlé de la transformation du travail, on a parlé de la révolution numérique, on a parlé même des moyens de jeter les bases d'une nouvelle protection sociale qui tienne compte de cette évanescence du travail traditionnel tel qu'on le connaissait. Et à l'inverse, il y a même eu des réflexions intéressantes sur l'Europe. Sur quelle base relancer l'Europe, avec un débat qui s'est déplacé des postures habituelles à des éléments de réflexion sur une nouvelle stratégie de relance européenne et même sur des éléments de politique sociale européenne, puisqu'il y a cette proposition sur un SMIC qui devrait déterminer pays par pays, même si le principe doit être déterminé au niveau européen. Il y a eu des débats sur le respect ou pas de la fameuse règle des 3% et au-delà de la règle des 3% de déficit de finances publiques, la contrainte acceptée ou pas d'aller en gros vers le zéro déficit.
Donc, un débat beaucoup plus riche que réaliste, idéaliste, gauche de gouvernement, gauche mouvementiste.
Sans dire qu'il y avait des dispositions fiscales novatrices qui étaient envisagées ici ou là.
Philippe Ashkenazi.
Oui, le même sentiment. On aurait pu avoir peur que la présidentielle ne tourne que autour de questions sécuritaires, identitaires, de questions d'immigration. Là, on revient, je pense, à la fois le cœur des problématiques de long terme et aussi de préoccupations des Français, et donc centralement la question du travail, la question de la France dans l'Europe, et donc c'est certainement un débat qui a été finalement sain au-delà même de la question de cette primaire de gauche, effectivement avec des idées plus ou moins novatrice. Là, sur ce plan-là, on peut largement discuter, mais en tout cas, une nouvelle centralité de débats économiques et sociaux, et à nouveau plus sain pour la société française.
C'est bien quand même, sur le plan démocratique, de nourrir le débat d'idées nouvelles ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas, de les poser à l'agenda et de voir comment les uns et les autres, les différentes gauches, se positionnent par rapport à ces débats. Donc, Marion Lourd, vous avez été intéressée intellectuellement par les débats de la primaire.
J'ai été intéressée effectivement par toute la réflexion aussi autour de l'ubérisation. On réfléchit à l'ubérisation, éventuellement à la fin du travail, ce qui me semble un peu nouveau. Et par ailleurs, sur le chiffrage, sur ce que disait tout à l'heure Gilles Boulot, sur le fait qu'il y aurait une gauche réaliste et une gauche un peu idéaliste, il me semble que les deux là-dessus sont un peu sur le même plan, parce que Manuel Valls, qui veut un revenu minimum décent, ça coûterait quand même autour de 30 milliards par an. On n'est pas tout à fait sûr du chiffrage. Benoît Hamon veut commencer avec 50, on n'est pas si loin, d'autant que Valls veut augmenter la prime d'activité. Donc, bon, le clivage entre gauche réaliste et gauche pas réaliste me semble un petit peu.
Oui, il est caricatural, polémique. Hein. Dominique Seux, il n'est peut-être pas d'accord.
Écoutez, non, je suis d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, avec deux petits bémols. Je pense que le débat est plus, au sein de la gauche, est plus intellectuel que ne l'a été le débat au sein de la droite. Il est aussi moins pratique, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien si on se dirige vers une élection présidentielle et si les concurrents de la primaire de la gauche se préparent à exercer le pouvoir. Il y a des débats intelligents, évidemment, intellectuels, idéologiques, mais au sens noble du terme, mais est-ce que c'est un programme présidentiel? On peut en douter. La seconde question, c'est... on voit bien quand même, et ça a été dit effectivement par Gilles Boulot tout à l'heure, qu'il y a beaucoup plus de différences idéologiques au sein de la gauche qu'au sein de la droite, entre Benoît Hamon et Manuel Valls, sur le rôle de la croissance et les perspectives de croissance. On voit bien que, alors est-ce que c'est un socialisme de production contre un socialisme de répartition? Est-ce que c'est un socialisme schumpeterien contre un socialisme malthusien? On peut à l'infini débattre de ça.
Non, Eli Cohen, non, voilà, calme.
Très très calme. Mais
dit Philippe Ashkenazi, tout aussi calme.
Mais on peut, en tout cas, il y a une différence idéologique, intellectuelle, qui est intéressante au sein de la gauche, qui est plus forte qu'au sein de la droite, il n'y a aucun doute là-dessus quand même.
Allez, premier auditeur à intervenir dans ce téléphone sonne, François des Pyrénées-Orientales. Bonsoir et bienvenue.
Oui. Bonsoir, monsieur Demorand, merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
J'espère que vous m'entendez bien.
Parfaitement bien.
J'ai la voix un petit peu cassée. Si vous le permettez, un tout petit commentaire juste à qui n'est pas sans lien avec la question que je compte poser. Dans l'émission précédente, un peu avant 19h, un des intervenants s'étonnait du recul des socialistes allemands, alors qu'ils avaient le mérite, selon lui, d'avoir mené les réformes avec M. Schröder. Je pense que la réponse est dans sa question.
C'était Arnaud Le Parmentier.
Voilà.
Qui fait les réponses et les questions, effectivement.
Voilà, parce que... Non, mais c'est mon avis, mon humble avis. Parce que s'ils sont en recul, c'est à cause sûrement des précarités qu'ils ont créées chez les salariés de ce pays-là.
Alors, profitez du peu de voix qu'il vous reste, François, pour formuler une question.
Alors, ma question, qui n'est pas sans rapport, en quoi le revenu universel prôné par M. Hamon est-il plus utopique que le CICE, les 40 milliards et demi qui ont été donnés aux grandes entreprises, peut-être plus qu'aux petites, et sans voir venir le million d'emplois promis par M. Gattaz, quand on jette à la face de M. Hamon, mais votre revenu universel, il va profiter, j'ai entendu, à Mme Bettencourt. Donc, cela me met un petit peu hors de moi.
Allez,
encore un peu plus.
Soignez votre gorge avec du miel, du citron ou un bon grog, François. La parole circule ici. Oui, effectivement, pourquoi dit-on que le revenu universel de Benoît Hamon est plus idéaliste que telle autre mesure, comme le CICE? Qui veut répondre, Ali Cohen?
Moi, je veux bien commencer, mais si vous voulez, les choses ont beaucoup varié sur le revenu universel. Si vous voulez, entre l'annonce de départ que M. Hamon a lui-même chiffré à 300 milliards d'euros, ce qui est à dire, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'État actuel, c'est-à-dire la promesse d'un doublement du budget de l'État. Donc entre cette annonce initiale et ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est-à-dire qu'il y aurait une première tranche pour les jeunes de 18 à 25 ans et qu'après on verrait, il y aurait une conférence nationale, on tiendrait compte des capacités contributives, des degrés de marge de manœuvre budgétaire, etc. Il y a un monde. Donc si on le prend au pied de la lettre, c'est-à-dire la déclaration initiale sur 300 milliards d'euros pour le revenu universel, alors ça n'a aucune comparaison avec le CICE, dont je vous signale qu'on n'arrête pas de dire que ça coûte 40 milliards à l'État. Ça ne coûte pas encore 40 milliards à l'État, on en est encore loin. Et en plus, ces 40 milliards viennent après des ponctions très importantes qui ont été faites, donc ça n'a rien à voir. Donc comparons ce qui est comparable, et ce qu'on peut comparer, c'est ce revenu universel, effectivement, que M. Hamon veut lancer, et qu'en plus, il justifie théoriquement, en disant « il faut bien, dans un monde où le travail fuit, dans un monde où les progrès techniques sont tels que des catégories entières d'emplois, notamment des classes moyennes, vont disparaître », bah, il dit « il faut assurer un revenu décent ». Et ce revenu décent, il l'a calculé comme devant aller de 550 à 750 euros selon le phasage qu'il a prévu. Et quand vous faites un calcul simple et que vous dites surtout, vous voyez toutes les hypothèses qu'il faut faire, que ça va venir se rajouter à une série de prestations. C'est-à-dire, s'il disait qu'il substituait une nouvelle protection sociale à l'ancienne, on pourrait discuter. Mais si ça s'ajoute, alors c'est simplement impensable dans quelques cadres économiques et budgétaires que vous imaginez.
Philippe Ashkenazi.
Oui, alors effectivement, il n'y a pas un revenu universel, mais il a proposé plusieurs solutions. Si on en reste à la dernière formule, qui est d'abord une forme de généralisation pour les jeunes de ce qui est le RSA aujourd'hui, et puis une grande conférence nationale qui renvoie à, on ne sait pas quelle va être la conclusion de cette conférence. Eh bien, on a finalement une proposition qui est tout à fait strauss-kahnienne. Et c'est là où je pense qu'il n'y a pas d'idéologie différente entre Valls et Hamon. On est très proche. Donc Dominique Strauss-Kahn, dès 2005, dans un ouvrage, d'ailleurs je crois de la Fondation Jean Jaurès, on aura
Jill Finkelstein tout à l'heure,
qui s'appelait Pour l'égalité réelle, proposait déjà pour les jeunes, alors pas une allocation, mais plutôt un capital qui serait donné.
C'est pas pareil.
Ah non, c'est exactement pareil. Lorsque on donne à un jeune de 18 ans un capital, que de lui dire vous avez une garantie entre 18 et 25 ans de recevoir un revenu qui va être constant durant cette période-là. C'est d'un point de vue strictement économique très 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 similaire. Donc c'est le même esprit, c'est de doter toute la jeunesse d'un capital ou d'un revenu jusqu'à un âge de 25 ans pour assumer une forme d'égalité des chances. Et vous voyez bien, l'égalité des chances, si on se souvient bien, la dernière loi qui s'appelait égalité des chances, c'est celle qu'on appelle loi Macron. Et donc il y a une continuité aujourd'hui, je pense, idéologique, au sein de la gauche française, bien plus forte que celle que l'on imagine. Alors, là où, effectivement, il peut y avoir élément de rupture, c'est sur le devenir du travail. Je pense que le fait que Benoît Hamon renvoie à une grande conférence ou autre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des débats, même d'un point de vue strictement académique, scientifique, sur le progrès technologique tel que l'on l'a aujourd'hui, comment il va se traduire sur le travail, que ce soit en termes de masse de travail, de nature du travail. Mmh. Et sur ce plan-là, eh bien, le fait que Hamon ait peut-être reculé, c'est aussi une prudence vis-à-vis de cette affirmation qu'il y aurait nécessairement moins de travail dans l'avenir.
Marion Lourd-Dominique.
Le revenu universel, c'est aussi une façon, si j'ai bien compris en tout cas la proposition de Benoît Hamon, qui est de valoriser d'autres choses que la création de de valeurs économiques, y compris l'engagement citoyen, l'engagement associatif, qui aujourd'hui n'est pas valorisé. Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, il y a quand même des pistes de financement. Il veut utiliser effectivement une partie du CICE. Il veut faire cotiser plus les entreprises qui remplacent les salariés par des robots. Ça, c'est aussi une proposition un peu innovante. Après, la question que ça pose, je trouve, notamment au niveau du CICE, c'est l'inquiétude que ça peut susciter chez les entreprises et la façon dont il va pouvoir les rassurer, d'autant plus qu'il a d'autres propositions qui me semblent peut-être un peu inquiétantes, en tout cas pour les chefs d'entreprise, qui sont la révision de la gouvernance des entreprises, où il y aurait un droit de veto des salariés dans les comités d'entreprise sur certaines choses, etc. Donc c'est là que va être le défi, si jamais il était amené à être président.
Dominique ?
Il y a une précision quand même importante qu'il faudrait un jour avoir, c'est quand on parle des revenus universels, est-ce que c'est destiné à remplacer d'autres prestations, voire l'assurance maladie, voire la retraite, voire les allocations logement, parce que ces 400 milliards, évidemment, on ne les sortira pas d'un coin du chapeau. Donc, est-ce que, en gros, quelqu'un qui a une maladie grave, est-ce qu'on va lui dire, écoutez, vous avez un cancer, 750 euros par mois, débrouillez-vous avec ça. Vous financez votre retraite avec ces 750. Et chacun, je trouve que c'est un débat intellectuellement intéressant. Vraiment, il n'y a aucun doute sur l'avenir du travail, etc. Mais soyons très concrets. Est-ce que demain, plus de retraite, plus d'assurance santé? Est-ce que c'est des variations? Est-ce qu'il y a des compléments? Est-ce qu'on module selon malgré tout les ressources des uns et des autres? Ou est-ce que c'est une manière pour les libéraux de dire, écoutez, on vous donne de l'argent et débrouillez-vous avec ça, on n'en parle plus. Et pour la gauche, une manière de dire, je renvoie les uns face aux autres, pour de dire, écoutez, de toute façon, il n'y aura plus de travail, donc débrouillez-vous avec ça. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a 15 ans, on a eu ce débat sur le partage du travail. Quelles que soient les conclusions qu'on peut en tirer, les effets, ça n'a pas été une réussite magnifique. Et maintenant, nous repartons sur un débat sur le partage des revenus. Mmh. Est-ce qu'on pourrait consacrer simplement la moitié du temps que nous venons de consacrer depuis 2 mois au revenu universel à la façon de créer tout simplement des emplois pour les jeunes et pour les personnes? Ce serait formidable.
Alors toujours sur le revenu universel, Alain nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonsoir Alain, bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors ma question, moi, c'était plutôt que de penser au revenu universel, est-ce qu'on ne voudrait pas déjà harmoniser le social européen pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité et arrêter de se faire concurrence entre nous?
Merci Alain pour cette question. Élie Cohen.
Oui, c'est justement la proposition de Valls qui consiste à dire qu'on ne peut pas continuer durablement à étendre le marché, à renforcer le marché, à approfondir le marché et avoir un fiscal et un social qui divergent radicalement. Et que donc, à la fois pour des raisons, paradoxalement, de concurrence libre et non faussée, et pour des raisons sociales et pour des raisons politiques, il faut aller plus loin dans l'intégration et l'harmonisation, et sur le volet fiscal et sur le volet social. Et sur le volet social, bien entendu, c'est la question du SMIC, et c'est la question du revenu, en gros, minimum à garantir pour les pauvres également dans les différents pays européens. Et il est proposé qu'en gros, il y ait une espèce de garantie de revenu qui soit équivalente à 60% du revenu médian dans chaque pays. Hein. Vous voyez bien, l'idée, c'est pas de créer ou un SMIC européen ou un minimum vieillesse européen, mais de faire en sorte que dans chaque pays, les travailleurs d'un côté et les pauvres de l'autre aient un revenu garanti par rapport au revenu médian.
Marion Lourd, puis Dominique.
Sur l'harmonisation européenne, les deux candidats proposent tous les deux le même genre de système de salaire minimum européen, même si on ne peut pas vraiment l'appeler comme ça. Et ils sont étonnamment d'accord aussi sur l'harmonisation fiscale européenne. Donc sur l'Europe, finalement, ils sont assez d'accord, si ce n'est sur la limite des 3% de déficit.
Alors ça, il y a des questions là-dessus. Dominique Seux, puis Philippe Ashkenazi.
On a un exemple très concret qui a été apporté hier, puisque Whirlpool a annoncé la fermeture de l'usine d'Amiens. 300 salariés aujourd'hui, 1500 il y a une petite dizaine d'années, parce que l'usine va partir en Pologne avec une différence de coût du travail qui est de l'ordre de 15%, 10 à 15%, j'ai plus les chiffres en tête. Bon, on voit bien que en Europe, tant qu'il n'y aura pas de rapprochement, harmonisation, et Élie Cohen a tout à fait raison, harmonisation, faut pas rêver non plus, on va pas avoir les mêmes revenus que les Lituaniens d'ici quelques mois. En revanche, on voit bien que des choses progressent. Le SMIC allemand 8,50 se rapproche et plus proche du SMIC français. Il n'existait pas tout simplement il y a 3 ans. Donc il y a des évolutions qui vont quand même malgré tout dans le bon sens.
Philippe Ashkenazi.
Oui, je pense que la convergence est déjà en marche très 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 fortement. Enfin, j'ai pris un mot en marche, désolé.
19h40. On en a parlé. Allez-y.
On a déjà une convergence des salaires qui est extrêmement rapide entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Dès à présent, vous parliez du salaire minimum en Allemagne. Lorsqu'on regarde en termes de coût du travail, compte tenu des cotisations sociales en Allemagne, le coût du travail au salaire minimum en Allemagne est supérieur au coût du travail en France. Donc, cette convergence avance dès à présent, aujourd'hui, et surtout les esprits avancent vers cela. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions à Bruxelles ou autre. Et donc, là, effectivement, les candidats finalistes de la primaire vont dans cette direction. Mais il ne faut pas quand même oublier que dans le même temps, il y a des problématiques qui se jouent interne à la France. Il y a aussi tout un questionnement sur une concurrence entre territoires sur lequel les candidats ne répondent pas. C'est-à-dire qu'on est sur une politique qui va de plus en plus vers tel pôle d'agrégation, que ce soit l'Île-de-France ou telles grandes agglomérations, en laissant de côté certains territoires. Et donc on crée des distorsions très fortes entre territoires français qui sont aussi un des vecteurs d'inégalité pour la France. Donc on regarde souvent l'Europe alors que on construit aussi des politiques qui créent des divergences au sein de la France. Et donc il y a quand même des trous aujourd'hui dans les programmes politiques, soit à gauche comme à droite.
Lucas nous appelle du Bas-Rhin. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir à tous. Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Alors, concernant le déficit public, Benoît Hamon compte le laisser filer au-delà des 3% du PIB et fait donc fi des engagements qui ont été pris avec Bruxelles. Alors, étant donné que le gouvernement actuel s'est déjà fait remonter les bretelles pour manquement à cette règle, comment compte-t-il mettre en œuvre cette mesure et mener la renégociation avec Bruxelles?
Merci Lucas pour cette question qui, selon Céline Cohen.
Il y a un rituel des présidentielles en France. À chaque présidentielle, les candidats de gauche et de droite disent « Écoutez, on est déterminé à faire des efforts quand on sera au pouvoir, mais au départ, il faut nous donner un peu de marge de manœuvre. » Et d'ailleurs, Fillon lui-même a dit, en fait, c'est ça son habileté, entre guillemets, en fait, le déficit est plus important que ce qu'annonce le gouvernement. On sera, je ne sais pas sur quelle base il a déterminé ça, on sera plus proche de 4.
Alors, il dit 3,5% depuis l'interview au Monde hier après-midi.
Mais la prévision officielle, c'est 2,7. Donc, en 2017. Donc, il dit, on sera entre 3,5 et 4. Donc, il faut nous laisser le temps de nous adapter. Alors, la nouveauté, me semble-t-il, c'est que, puisqu'on parle des candidats de gauche, l'un et l'autre n'entendent pas respecter la règle des 3%, mais surtout, l'un et l'autre n'entendent pas respecter la règle que nous avons couchée dans le marbre des traités avec le TSCG de 2012, qui est que nous devons aller vers un déficit de l'ordre de 0,5%. Non, on aurait dû... Alors je ne suis pas en train de justifier cette chose-là. Je pense que ça n'est pas justifié d'un point de vue économique d'aller vers un déficit. Pourquoi diable faire un déficit de 0,5? Mais je constate que malgré les traités signés, malgré les engagements formellement pris, ni l'un ni l'autre n'entendent les respecter. Et donc l'un et l'autre auront à négocier avec Bruxelles. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent négocier? Le schéma idéal, je vous le donne, c'est de dire oui, donnez-nous un peu d'espace budgétaire et en échange, nous nous engageons sur un certain nombre de réformes ou d'investissements que nous considérons comme structurants pour notre développement. Et puis à charge à vous de venir vérifier tous les ans ou tous les pour pouvoir tenir en bout de course l'engagement final.
Marion Lourd, Dominique Seux, Philippe Ashkenazi.
Alors moi j'étais au sommet de Davos la semaine dernière en Suisse et tout le monde était très inquiet, tous ces patrons, tous ces grands dirigeants, de la montée des populismes en Europe. Et la question de renégocier, de réfléchir à nouveau à ce problème de la dette et de l'austérité, en tout cas des limites budgétaires qu'on se pose, elle existait dans le débat au niveau
donc
des dirigeants.
Donc desserrer
exactement, d'autant plus que la limite des 3% en réalité elle a pas beaucoup de sens. C'est censé être celle à partir de laquelle le déficit commence à baisser, ne se creuse plus. Or, c'est en condition d'inflation normale, entre guillemets, condition qu'on n'a pas eu depuis des années. Donc,
Ça veut dire que ça veut dire très concrètement que la dette progresse à un niveau nettement inférieur à moins de 3% du déficit.
Oui,
il progresse autour de 1 ou 2% du déficit.
Exactement.
Donc elle progresse de toute façon.
Elle progresse encore plus.
Ce chiffre n'a effectivement pas beaucoup de sens, sauf que année après année, la dette grimpe. Et ce chiffre, il faut quand même dire que c'est pas Bruxelles, c'est des traités qui ont été signés par les capitales européennes, qui sont confirmés année après année.
Et en plus sur une
année,
proposition française.
Et sur une proposition française, à force de dire.
C'est de nous que ça vient.
Ça vient de 1983, donc c'est quand même
pour
assez loin.
Pour s'auto-limiter.
Voilà, exactement. Il y a deux attitudes
c'est
possibles.
C'est pas Bruxelles, c'est Paris, donc.
Voilà, okay, c'est Paris, ça, Berlin, c'est Rome, c'est l'ensemble.
Merci François Mitterrand.
Voilà, c'est l'ensemble. Ben oui, c'était pour construire. La monnaie unique, il fallait dire nous allons nous auto-limiter parce qu'on n'avait plus le moyen de faire des dévaluations. Peu importe. Il y a deux attitudes manifestement. Il y a une partie des candidats de droite et de gauche, il y a Macron et Fillon qui disent il faut reconsolider le lien avec l'Allemagne. Et donc, en échange de réformes que la France fera, nous demanderons aux Allemands une fois de plus... Enfin, aux Allemands, nous serons un peu plus larges sur les déficits. Et puis, il y a tous ceux qui pensent, et je pense que Manuel Valls et Benoît Hamon sont plutôt de ce côté-là, nous allons contourner les Allemands et essayer de faire une nouvelle fois l'alliance de revers, la fameuse alliance de revers avec les Espagnols et les Italiens. Ça n'a pas beaucoup marché en 2012.
Pour l'instant,
ça n'a pas beaucoup marché. Donc, il y a deux attitudes sur l'avenir du franco-allemand.
Mais d'ailleurs, il y a Benoît Hamon qui propose d'annuler la dette de certains pays du Sud. C'est dans son programme. Hein.
Philippe Ashkenazi.
Oui, alors c'est une situation qui a de multiples dimensions. Déjà, on n'est pas du tout en fait dans une perspective où la dette française explose. En fait, si à politique constante, elle va diminuer dans les années qui viennent. Et c'est là où la Commission européenne serait bien embêtée si la France dépassait les 3 points. Elle aurait quand même le niveau d'endettement total en point de PIB qui diminuerait. Si on était à 3,5 pendant 3-4 ans, ça diminuerait quand même parce qu'il y a des effets sur les taux d'intérêt qui ont chuté, charge de notre dette ou autre. Donc là, la Commission européenne
ça
est en partie
coincée. Ça dépend de la croissance
coincée.
Quand même.
Ça dépend avec des scénarios de croissance
et
des taux d'intérêt
et de la reprise des taux éventuels.
Éventuel.
Elle a commencé.
On pourrait aller en discuter. Le deuxième élément, c'est les éventuels mouvements de l'Allemagne. C'est-à-dire l'Allemagne, on dit les Allemands. Bon, aujourd'hui, c'est essentiellement Schäuble. C'est le ministre de l'économie allemand qui est en partie en conflit avec la chancelière. On ne sait pas ce que vont donner les élections allemandes. Il va y avoir certainement une coalition. Il risque d'y avoir une coalition, non pas avec le SPD, mais avec les Verts allemands, qui ont des positionnements qui sont potentiellement plus souples vis-à-vis de la question de la dette. Et puis enfin, ben, on a Trump, Theresa May. Qu'est-ce que c'est que leur politique? Leur politique, c'est une explosion de l'endettement public.
Et les patrons sont contents.
Pardon?
Et les patrons sont contents.
Les patrons sont toujours contents.
Les patrons sont toujours
contents. Quand les comptes explosent.
Qu'est-ce qu'il va y avoir?
Quand la gauche quitte le pouvoir,
si on a une Europe qui stagne avec ses règles budgétaires et que de notre côté, on a un Trump victorieux avec ses immenses déficits publics, c'est quelque chose qui, de toute manière, sera intenable politiquement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a, que ça aille de Fillon jusque à Hamon, tout simplement, une fenêtre qui fait que ces 3% vont devenir en soi obsolètes dans les années qui viennent. Donc, en soi, c'est presque plus un sujet.
Merci d'écouter France Inter. Il est 19h48. On parle des programmes économiques de Manuel Valls et de Benoît Hamon.
Édition spéciale. Entre deux tours de la primaire du Parti Socialiste et de ses alliés sur France Inter.
Bonsoir, Georges.
Oui,
vous êtes là, Georges ? On vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci Nicolas Demeurant, merci à vos invités, merci aux auditeurs aussi.
Oui.
C'est une question simple. Tout le monde dit que la taxe robot de M. Hamon est stupide. Je suis chef d'entreprise dans le numérique et elle ne me semble pas si idiote que ça.
Restez en ligne, Georges. On passe la parole.
Je veux bien commencer.
On rigole.
Qu'est-ce que c'est que la taxe sur les robots? C'est un impôt sur le capital productif. Et c'est un impôt sur le capital productif en France, puisqu'on parle de France. Or, il se trouve que la France est l'un des moins bien équipés
en matière de robots, et l'un des pays qui connaît le vieillissement de son parc industriel le plus important et qui connaît la désindustrialisation la plus importante. Donc un pays qui est dans cette situation, par exemple, il faut le savoir, pour avoir des ordres de grandeur, on a, toutes choses étant égales par ailleurs, 5 fois moins de robots que la Corée, 3 fois moins de robots que l'Allemagne, 2 fois moins que l'Italie, et même l'Espagne est en train de nous dépasser. Donc si le seul avenir technologique et industriel qu'on promet à ce pays, c'est de taxer tous les efforts de modernisation de l'outil de production, alors bravo, chapeau.
Philippe Ashkenazi.
Oui, alors déjà, bon, je suis pas sûr que ce soit un drame qu'on ait moins de robots en France, hein, parce que on sait très bien qu'on va avoir une nouvelle vague de technologies, justement de robots autonomes, qui vont rendre ceux qui ont investi aujourd'hui totalement obsolètes dans 2-3 ans. Donc, il y a des investissements à perdre.
Vive le retard.
Non, parfois vive le retard. Il faut parfois laisser passer une vague. Ça a été souvent, vous voyez, l'histoire Minitel et on était trop en avance. Donc il faut faire parfois attention sur ces vagues-là.
Alors, surfer la suivante.
La question de la taxe robot, il y a quand même par derrière toujours cette problématique sur le travail, c'est-à-dire l'idée que les robots remplaçant l'homme, la protection sociale étant basée sur les salaires, eh bien on va taxer les robots, enfin en gros c'est les cotisations sociales sur les robots.
Alors sur le capital, il faut dire les choses.
Oui, alors
approchez-vous.
Alors donc sur ce point-là, je pense que c'est l'hypothèse de base qui est largement discutable et probablement en grande partie erronée. On n'est pas dans une perspective où on va avoir massivement des humains remplacés par les robots. Et donc la question finalement perd dans ce cas-là, la pertinence. Effectivement, ça se transforme en une forme de taxe sur un certain type de capital et peut-être pas la taxe qui serait prioritaire. Il serait peut-être plus prioritaire, quitte à taxer un capital, de taxer le capital foncier qui est qui se promène pas.
Donc vous êtes relativement
on est d'accord sur la conclusion.
Mais oui, le raisonnement est très important aussi. Dominique,
trois remarques. La première, c'est quand on parle de robots, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du bras de peinture chez Renault? Est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on parle d'un logiciel? Le terme robot ne veut pas dire grand-chose en soi. Enfin, donc taxer les robots, c'est sympathique, mais ça ne veut pas, me semble-t-il, dire grand-chose. Le second point, c'est comme par hasard, les pays qui ont le plus de robots, au sens large, industriels, sont les pays où il y a le moins de chômage. Alors, causalité, je ne sais pas, mais la Corée, l'Allemagne, etc. Donc, on ne peut pas dire que ce sont les robots qui créent le chômage. Et puis, troisième point, une étude intéressante du Conseil d'orientation pour l'emploi publiée la semaine dernière a un petit peu relativisé les risques de perte d'emploi. Il y a eu, aux États-Unis, il y a eu des études il y a quelques années disant 1 sur 2 va disparaître. Et puis, maintenant, on parle plutôt de 10% de...
Alors, c'est beaucoup. Une étude d'OCDE aussi.
Voilà, ça commence à baisser un 9%. Petit peu. Et l'étude du Conseil d'orientation pour l'emploi a dit entre 1,5 et 2 millions d'emplois seraient menacés, ce qui est énorme. Mais d'autres emplois seront créés. En réalité, on n'en sait pas rien et il est très probable qu'au moment du passage des calèches aux voitures automobiles, nous avons eu les mêmes craintes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et effectivement, ce que disait Philippe Ashkenazi sur la taxation au bon endroit du capital est une réflexion à avoir. Modulo le fait que la France est déjà le pays qui taxe et de très loin le plus le capital du pays de l'OCDE.
Si j'ai bien compris, cette taxe robot, elle inquiète surtout beaucoup les industriels qui fabriquent des robots, parce qu'on a reçu pas mal de communiqués sur le sujet. Ensuite, le fait d'avoir moins de robots que les autres
des
pays.
Robots.
Bah, mais ça existe.
Et ensuite, c'est composé de robots.
Oui, c'est ça.
Le fait, c'est Real Humans, vous savez la série. Ça nous empêche pas d'être plus productifs que la plupart des Européens, d'avoir moins de robots. Déjà, c'est une première remarque. Et ensuite, si j'ai bien compris la proposition de Benoît Hamon, mais encore une fois, je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise. L'idée n'est pas de taxer le capital, l'idée est de taxer la valeur ajoutée et pas uniquement le travail. Et la valeur ajoutée, ça veut dire, mettons pour Google, taxer le nombre de clics, par exemple, enfin, ou pour un algorithme, taxer le nombre de calculs, je ne sais pas. Donc c'est un peu différent que de taxer le capital, si j'ai bien compris la proposition.
On est au standard avec Julien, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs, dames.
Julien de Bordeaux, bienvenue.
Oui, tout à fait. Merci. J'aurais une question à propos de la lutte contre le chômage, et notamment une lutte annoncée par de nombreux candidats. Je voulais savoir si faire diminuer le chômage se traduisait nécessairement par une diminution de la pauvreté. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit le cas, par exemple, en Allemagne, avec énormément de contrats partiels qui touchent principalement les femmes. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus.
Merci pour cette question, Julien, sur la relation Philippe Ashkenazi entre baisse du chômage et problème de la pauvreté.
Ben en fait, il n'y a pas de relation automatique. C'est plutôt des choix de politique de l'emploi. Donc, effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits dans un certain nombre de pays d'essayer de promouvoir l'emploi à travers une acceptation d'avoir une pauvreté laborieuse. Et ça a été le choix de l'Allemagne, et elle y est d'une certaine manière revenue dessus. On a déjà parlé du salaire minimum allemand. Eh bien, finalement, qu'est-ce qu'on constate après coup ? C'est que malgré l'instauration du salaire minimum, on n'a pas eu du tout d'explosion du chômage. Et donc, il y a une relecture de historique qui est finalement les succès qui ont été attribués à Schröder, à la flexibilité, au fait que c'est des salaires bas, des mini-jobs, etc., de l'économie allemande, ne sont peut-être pas c'est lié à cette politique-là. Donc, je pense que fondamentalement, il y a une déconnexion entre avoir une politique de l'emploi et accepter d'avoir une plus grande pauvreté. Mais effectivement, aujourd'hui, on a vu un certain nombre de pays qui, malgré le fait qu'ils soient au plein emploi, ont une pauvreté qui a très fortement progressé. Le but, vraiment, est d'essayer de trouver une solution. Et ça, si vous voulez, là aussi, lorsqu'on regarde les programmes tels qu'ils sont proposés à gauche, c'est assez surprenant de voir que la question de la politique de l'emploi est relativement peu présente. Voilà, peut-être ça va venir ce soir.
On va voir. Dominique Seux.
Oui, un certain nombre de pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne notamment, n'importe quel emploi plutôt qu'un un taux de chômage élevé. C'est le choix qui a été fait depuis des années. Sur le taux de pauvreté en Allemagne, effectivement, il est plus élevé qu'en France. Il tourne autour de 16%, quelque chose comme ça. Et la France est autour de 14,3%. Il y a une légère différence. Il faut quand même regarder que la pauvreté, le taux de pauvreté laborieuse en Allemagne se concentre quasiment exclusivement dans l'Est de l'Allemagne, dans la partie Est de l'Allemagne, c'est-à-dire les ex-Länder de l'Est. Ça veut dire qu'au bout d'une génération, la mise à niveau industriel et en service n'est pas encore faite. Sur la partie Ouest de l'Allemagne, le taux de pauvreté, il est très nettement inférieur à celui de la France.
Alors, on a appris beaucoup de choses, chers amis, en vous écoutant. La matrice strauss-kahnienne commune à Benoît Hamon et Manuel Valls me semble être scoopesque. Deux candidats qu'on imagine radicalement opposés, mais qui auraient une matrice commune dans l'économie strauss-kahnienne. Élie Cohen,
Vous savez, dans la tradition,
l'analyse de Philippe Ashkenazi,
dans la tradition du Parti socialiste, il faut pas avoir la mémoire courte. Il y a toujours eu coexistence d'utopie et en même temps de propositions programmatiques.
Là, c'est la fécondation des deux,
absolument,
si j'ose dire.
Et je dirais même parfois dans un même personnage. Vous le savez, j'ai bien connu Michel Rocard. Michel Rocard était celui qui, en même temps, parler de la bataille pour l'organisation de la planète, voulait changer les systèmes de financement internationaux, et en même temps était un technicien pointu, compétent dans les sujets budgétaires, financiers et fiscaux. C'était le même homme, le même personnage, qui était capable de grandes envolées sur la fin du travail, qui était très séduit d'ailleurs par toutes les constructions économiques, théoriques, nouvelles et originales. Et en même temps, c'était un gestionnaire remarquablement compétent. Donc, et c'était un homme de gauche qui réconciliait ces deux traditions.
Débattront les enfants de Michel Rocard ce soir et les frères de Dominique Strauss-Kahn, si je vous ai bien compris. Élie Cohen, merci. Philippe Ashkenazi, merci également. Dominique Seux, demain matin sur France Inter.
Je le crois.
Ben oui, tôt hein, avec ça. Et Marion Lourd, à tout à l'heure pour la suite de cette édition spéciale qui va continuer après le rappel des titres avec Laurence Thomas. 01 45 24 7000, tous les moyens modernes et anciens pour nous joindre fonctionnent parfaitement. On parle idéologie donc dans quelques minutes.
France Inter, le 18-20.
C'est la suite de ce 18h minuit, donc à l'occasion du débat, dans moins d'une heure maintenant, entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Balle neuve pour cette deuxième partie du Téléphone sonne. On va réfléchir maintenant au corpus idéologique de ces deux gauches, dont le camp Valls dit qu'elles sont irréconciliables. Du côté Hamon, une gauche qui se veut de gauche, frondeuse, mouvementiste, inspirée, disait Benoît Hamon, des expériences de Podemos ou de Corbyn. Du côté Valls, une gauche républicaine autoritaire, qui entend aussi mener le combat sur le plan des valeurs et de la laïcité. On l'a vu de manière crue depuis le premier tour de cette primaire. Alors ces deux gauches sont-elles exclusives l'une de l'autre? On pose la question à nos invités jusqu'à 21h et je compte bien entendu sur vous au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson et sur la page Facebook d'Inter.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Pour vous répondre, amis auditeurs, sont invités donc dans cette deuxième partie du Téléphone sonne, Anne Muxel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directrice de recherche au CNRS et Vipof. Gilles Finkelstein, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Thomas Legrand, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste sur France Inter. Et Frédéric Mettezo, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Chef du service politique d'Inter. Cette question des deux gauches, comment la recevez-vous? Je commence avec vous, Anne Muxel, de gauche irréconciliable, une gauche idéaliste, dit-on, une gauche réaliste, une gauche d'opposition, une gauche de gouvernement. Ça vous semble artificiel intellectuellement ?
Non, je ne pense pas que ce soit artificiel, en tout cas pas politiquement. Le débat de ce soir a au moins pour mérite de effectivement mettre très concrètement en scène controverses, des clivages qui traversent l'histoire du Parti Socialiste depuis longtemps. Ce n'est quand même pas nouveau. Et je pense que, du coup, le débat de ce soir va être très intéressant pour ceux qui vont le regarder, car on va voir bien s'opposer. On va le voir dans quel domaine, mais bien s'opposer ou éventuellement se retrouver ces deux familles à l'intérieur de la gauche socialiste. Ne l'oublions pas.
C'est une précision importante à faire. Qu'est-ce qui unit Gilles Finkelstein et comment les définir, ces deux familles? C'est quoi le grand corpus idéologique de chacune?
D'abord, je ne sais pas s'il n'y a que deux familles.
Les deux, ce soir.
Non, je ne sais pas où passe la frontière. Il y a eu historiquement de gauche, d'ailleurs, dont les contours ont été très différents. C'était au début du XXe siècle, Guesde et Jaurès. C'était plus récemment Mitterrand et Rocard, pour être sur les figures les plus connues. Ce qui est intéressant, c'est que les clivages autour desquels ça s'articule sont sans doute différents. Et quand on regarde le premier tour de la primaire, on avait à la fois une nouvelle génération et, je crois, de nouveaux clivages. Si on essaye simplement d'un mot de caractériser le socialisme de chacun, on avait peut-être, vous l'avez dit, un socialisme républicain avec Manuel Valls, un socialisme moral avec Vincent Peillon, un socialisme national avec Arnaud Montebourg et un socialisme utopique avec Benoît Hamon. C'est ce débat-là, mais qui se fait sous des jours assez nouveaux que l'on va voir s'affronter ce soir.
Et utopique n'est pas péjoratif dans votre bouche, que les choses soient claires. Hein.
Non, utopique n'est pas péjoratif. Après, il y a le débat, et ça va être un des cœurs du débat de ce soir, de la confrontation de cet idéal au réel, pour reprendre encore une fois la formule de Jaurès.
Frédéric Mettezo, sur ces deux gauches.
Les deux gauches, elles ont toujours existé au sein du Parti Socialiste et même les clivages ne sont pas si nouveaux que ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec Gilles Finkelstein. Par exemple, la question de la laïcité qui en ce moment est vraiment abrasive. On a vu que Benoît Hamon et Emmanuel Valls se sont tapés dessus. Cette question de la laïcité, elle émerge dès 1990 avec, vous vous souvenez, les jeunes filles au foulard à Creil. L'Europe, est-ce qu'on laisse filer les déficits ou pas? Ça, c'est 83. La gauche morale et la gauche efficace, c'est Badinter et de faire. Donc ça commence à remonter loin. Ce qui change, c'est que à l'époque, la gauche socialiste réussit à contrôler l'autre gauche qui est la gauche communiste avec l'union de la gauche. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est plus sous contrôle du parti socialiste. Et puis ce qui change, c'est qu'on était en époque de bipartisme. Aujourd'hui, on est à trois. Il y a le Front National qui vient tout changer. À une certaine époque, la gauche socialiste pouvait se payer le luxe de se déchirer et de se retrouver. Aujourd'hui, elle se déchire, mais elle se retrouve plus. Et surtout, elle est virtuellement troisième ou quatrième.
Quelle perspective, donc, à ce débat? Normalement, le Parti socialiste a toujours réussi à trouver ce qu'on appelle la fameuse synthèse.
Normalement,
entre
le Parti socialiste, une fois que le Parti socialiste était réuni, ça marchait, ça roulait. Aujourd'hui, le Parti socialiste réuni, il est virtuellement cinquième de la présidentielle.
Thomas Legrand.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, même si tout ce qui a été dit est un peu contradictoire, parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous toujours. Mais enfin, il y a quelque chose d'assez nouveau, moi, je trouve, dans la gauche de Hamon, c'est qu'il vient introduire une nouveauté il brise un tabou, c'est-à-dire que toutes ces gauches dont on parle ont toujours été axées sur la croissance. L'idée, c'est quand même d'avoir de la croissance pour redistribuer. La finalité de la gauche socialiste, de la gauche démocratique, c'est redistribuer les fruits de la croissance. Et là, pour la première fois, on a quelqu'un qui dit il faut peut-être rompre avec cette idée de croissance. Et donc, il casse cette valeur travail. Il veut déconnecter le travail du revenu, c'est ça. Au fond, vous en avez parlé.
Le revenu universel
qui précède. Et cette idée-là est assez nouvelle, est assez... avec tout le monde, tous les autres socialistes contre lui, contre elle. Et je pense que ça, c'est la grande nouveauté. Et je voudrais souligner que ces deux personnages, les deux finalistes, sont issus finalement du rocardisme et de la deuxième gauche, et on a la culture de gouvernement qu'avait cultivé Rocard et la confrontation au réel, et puis aussi Rocard, c'était un ingénieur du social, c'était aussi un utopiste, quelqu'un qui croyait en la société, au contrat plus qu'en la loi et en l'autorité, et il y avait ces deux choses dans c'est comme si le rocardisme était un œuf et on avait le jaune et le blanc séparés aujourd'hui, ce soir, qui vont s'affronter.
Allez, on passe au standard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Alors voilà, c'est une question qui concerne la culture, qui est un sujet qui a été complètement absent pour les élections présidentielles aux États-Unis, la droite française pour les primaires non plus. Alors ma question c'est, quelle va être la politique culturelle de M. Hamon ou de M. Valls, pour lequel il semble qu'il y ait un grand silence concernant aussi l'enseignement artistique en France qui est pitoyable. Est-ce qu'ils ont des projets là-dessus?
Vous pensez que c'est la culture qui guide le monde plus que la politique, Mathieu?
Je pense que c'est la culture qui conduit le monde et que la politique s'y adapte. Et la grande terreur des politiciens, c'est que ça leur échappe. Ça a failli leur échapper en mai 68, ils sont arrivés à reprendre le dessus, mais c'est toujours une méfiance des artistes très importante, même s'il y a des artistes qui font de la politique, entre guillemets, parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il faille faire, voilà. Je ne sais pas si je me suis clairement exprimé.
Si, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Qui veut réagir sur la dimension culturelle, mais peut-être au sens large, quand on parle de bataille culturelle, on sait que les batailles culturelles et les batailles politiques sont souvent étroitement liées et que gagner une bataille culturelle parfois précède la bataille politique, la victoire politique.
Alors, d'un mot, la question de Mathieu tombe bien parce que demain et après-demain, la Fondation Jean Jaurès organise un séminaire, un colloque européen sur socialisme et culture. Donc, je ne sais pas s'il l'avait vu, mais ça tombe à pic. Quand on regarde maintenant les programmes, il y a la culture au sens strict de la politique culturelle. Et là, c'est plutôt Manuel Valls qui en parle, notamment de poursuivre l'augmentation de la dernière année du budget de la culture. La culture au sens large de la bataille culturelle qu'évoque Nicolas Demorand, d'une certaine manière, c'est ce que disait Thomas Legrand tout à l'heure. C'est Benoît Hamon qui l'a mené, et la réussite de sa campagne au premier tour, c'est que c'est autour de lui que s'est structurée cette campagne, peut-être justement parce qu'il l'a située à ce niveau.
Thomas Legrand.
Il y a un grand défi en ce moment pour la gauche. La gauche ne supporte pas de ne pas être leader dans la bataille culturelle. La majorité culturelle n'est pas à gauche en ce moment. C'est le sentiment qu'ont les gens de gauche. Vous savez que François Mitterrand disait dans les années 70, à la fin des années 70, après avoir, je crois, raté les élections législatives de 78, on va finir par gagner parce que nous avons la majorité culturelle, et c'est ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression que le combat intellectuel est mené par des intellectuels plutôt de droite et des idées conservatrices, quand ce n'est pas réactionnaire. Et il y a cette bataille aussi, il y a ce souci chez la plupart des électeurs de gauche de pouvoir retrouver la majorité culturelle. Mmh.
Frédéric, Gilles. Oui,
juste d'un tout petit mot pour prolonger ce que vient de dire Thomas Legrand. À la fin des années 70, il y avait eu un célèbre livre de sciences politiques qui s'appelait « France de gauche, vote à droite ». Donc, la majorité sociologique, la majorité culturelle était à gauche, mais on continuait à voter à droite. Peut-être qu'il y a eu une illusion il y a quelques années et qu'on a eu une France de droite qui avait voté à gauche, et c'est un peu la situation dans laquelle on est.
Frédéric Mettezo.
Oui, sur la question de Mathieu, notre auditeur, sur les propositions en matière de culture, je retiens tout de même un aspect du programme de Benoît Hamon. C'est vrai que c'est pas les programmes les plus épais, hein, les programmes culturels. Benoît Hamon insiste sur le problème de concentration des médias. Il voudrait une loi anti-concentration. Alors sur le papier, c'est vrai que ça semble nécessaire quand on voit ce qui peut se passer pour le groupe Bolloré ou pour le groupe SFR avec Patrick Drahi, BFM TV, etc. C'est un point sur lequel insiste Benoît Hamon, et je crois qu'on est tous ici assez d'accord. Culture et communication et concentration des médias, c'est sans doute un problème majeur qui concerne le travail des médias, le travail des journalistes et aussi plus largement la diffusion de la culture.
Daniel, bonsoir.
Oui.
Bienvenue. Bonsoir. On vous écoute, Daniel.
Oui, voilà, moi je suis un très vieux militant. Hein. J'ai fait plus d'une dizaine d'années au Parti communiste et un peu plus au Parti socialiste. Et je considère aujourd'hui que le Parti socialiste est mort. Il a commencé à mourir en 2002, lorsque Le Pen est arrivé à la surprise générale, sauf moi, devant Lionel Jospin. Et je m'en étais aperçu en distribuant des tracts sur le marché de Pantin, parce que je me faisais agresser par des gens issus des classes moyennes, qui étaient furieux parce qu'on leur avait coupé les allocations, ils ne pouvaient plus payer leurs femmes de ménage. Et ils me disaient, on va voter pour le Front National. J'avais dit ça à mes camarades, ils se sont foutus de moi. Hein, bon. Donc c'est arrivé. Ensuite, il y a eu les primaires qui opposaient les partisans de Ségolène Royal et les partisans de Martine Aubry, et j'ai vu la triche à Pantin, qui était mené par Bartolone et les aubristes en général. Ils ont fait le maximum pour récolter, aller chercher les gens chez eux, leur faire prendre la carte du Parti Socialiste, les faire cotiser, les faire voter, etc., etc.
Deuxième mort du Parti Socialiste.
Deuxième mort du Parti Socialiste. Troisième mort, la candidature de Ségolène Royal à Villepinte. Si les gens qui sont ici se rappellent bien, tous les éléphants du Parti Socialiste qui étaient devant, et Ségolène Royal qui était sur l'estrade, et rien qu'à voir la tête de ces gens, je savais d'avance qu'ils ne mèneraient pas campagne, ce qui s'est produit.
Merci Daniel pour ce rappel historique de toutes les morts du Parti Socialiste, un thème consubstantiel, Muxel, la mort du PS, au PS lui-même.
Oui, la mort du PS, mais au-delà, les difficultés, les difficultés pour les partis politiques aujourd'hui. Il y a quand même une crise des partis, une crise des médiations traditionnelles de la politique. Et voilà, il y a effectivement des partis plus mal placés que d'autres et qui s'empêtrent dans des querelles d'appareil, mais aussi dans des querelles idéologiques internes, dans des querelles de pouvoir. Bon, et c'est vrai que dans un contexte de si forte défiance des Français à l'égard de la politique, de demande de davantage de démocratie directe, de méfiance effectivement envers les organisations et les structures, le Parti Socialiste est particulièrement affecté. Et bon, il était aussi au pouvoir. N'oublions pas qu'on sort, d'une période où, François Hollande est l'actuel président de la République. Le Parti Socialiste était au pouvoir, est encore au pouvoir. Et donc, forcément, il y a en plus cette crise prend un relief singulier.
Il sort très abîmé, le PS, de ses 5 années de pouvoir, Gilles.
Ah, si je vous disais le contraire, vous seriez sans doute surpris.
Vous serez intéressé par la réponse.
Non, cette question de la mort du Parti Socialiste, elle revient de manière récurrente. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, ça ne peut pas être vrai. Donc, il faut quand même faire attention à dire, ça, on l'a toujours dit et ça n'est jamais arrivé. Si on essaye de résumer, ce que disait Daniel est intéressant. depuis 1971, ce qui caractérisait le mouvement socialiste, c'était que c'était les forces centripètes qui l'emportaient. C'est-à-dire que à gauche et à droite du PS, ça convergeait vers le Parti Socialiste. C'est le parcours de Daniel, il a été au Parti Communiste, puis il a été au Parti Socialiste, et puis de la même manière, il y avait des catholiques de gauche qui sont arrivés au PS. Et puis depuis maintenant une grosse dizaine d'années, parce que le phénomène n'est pas si récent que ça, ce sont à l'inverse les forces centrifuges, c'est-à-dire que ça s'est détaché du Parti Socialiste. C'est Jean-Pierre Chevènement dans un premier temps, c'est Jean-Luc Mélenchon dans un second temps, et puis très récemment, c'est Emmanuel Macron. Il y a quelques années, c'est au Parti Socialiste qu'il aurait adhéré, c'est du Parti Socialiste qu'il aurait essayé de reconstruire. Là, il a créé En Marche. Donc c'est ce passage d'un mouvement qui rassemble à un mouvement qui se divise, qui traduit l'état d'affaiblissement actuel du Parti Socialiste.
Et donc la question de la mort du Parti Socialiste pourrait être d'actualité, si je vous comprends bien. Oui, Thomas Legrand.
Moi, je pense que, enfin, vous dites qu'on l'annonce depuis longtemps et que ça n'arrivera pas. Là, il va y avoir quelque chose d'assez concret, hein, qui va montrer qu'on est peut-être à la fin de ce qu'on peut appeler le cycle d'Épinay. Épinay, c'est donc 1971, la création par François Mitterrand du Parti Socialiste tel qu'il est aujourd'hui. C'est que le candidat issu de cette primaire, donc dimanche soir, se retrouvera dès la semaine suivante dans une sorte de conflit de légitimité. Il pourra dire, ouais, bon, il y a quand même 1 800 000 ou 682 000, enfin, on ne sait pas combien il y en aurait, peut-être un peu moins, un peu plus, de gens qui ont voté pour moi, c'est des vraies personnes, des vraies voix. Et en face, on lui opposera les sondages, auxquels personne ne croit jamais, mais qui, au bout de 3 semaines, vont quand même installer dans nos têtes une hiérarchie. Et donc, il y aura une sorte de conflit de légitimité entre la réalité politique et l'efficacité politique. La morale politique, qui est les voix comptent quand même, et puis l'efficacité politique qui est, t'es gentil, mais les sondages font que, si on veut pas se retrouver avec Marine Le Pen et François Fillon, eh bien, les électeurs de gauche vont faire une énorme pression, et la pression va aller plutôt, si l'état des forces reste, l'état du rapport de force reste ceux d'aujourd'hui, va aller à la disparition, la soumission du candidat du Parti Socialiste à Emmanuel Macron. Et là, on pourra dire, à ce moment-là, on verra aux législatives, mais on pourra dire qu'on sera à la fin du cycle d'Épinay.
Nicolas, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Languedoc-Roussillon.
Languedoc-Roussillon, oui, serré. En fait, moi, je voulais poser une question très pragmatique. Si, c'est avec des prospectives. C'est, en fait, si Benoît Hamon l'emporte, il y aura un problème avec la France insoumise.
Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Moi, l'idée, c'était... La proposition, c'est Jean-Luc Mélenchon se propose candidat toujours au présidentiel. Est-ce que Benoît Hamon acceptera d'être son Premier ministre ?
Merci Nicolas pour cette question. Tout le monde fait non ici. Frédéric Mettezo ?
Bah, au moins sur la question du...
Alors, sur la convergence, voilà. Hamon-Mélenchon.
Bah, avant de parler de convergence, il vaut mieux parler de la divergence majeure qui est celle du revenu universel dont parlait tout à l'heure Thomas Legrand. Jean-Luc Mélenchon, lui, est farouchement opposé à ce revenu universel parce que c'est la déconnexion...
Qui les oppose de façon plus irrémédiable.
Alors, il y a la décorrélation entre travail et revenu qui est un vrai souci. Et effectivement, il y a la question de l'Europe. C'est tous les deux des nonistes à l'époque, sauf que c'était un clivage d'il y a une quinzaine d'années maintenant, on est en 2005. Donc effectivement, il semble, sur le papier, Hamon semble plus à gauche et plus près de Mélenchon que Valls, mais sur le fond, les divergences sont majeures.
Thomas Legrand,
je lui ai posé la question quand il est sorti du studio, c'était un peu un off, je l'ai brisé, je lui ai dit mais est-ce que vous vous sentez plus proche de Mélenchon ?
Vous avez demandé ça à qui ?
Ou de Macron ? À Benoît Hamon.
À Benoît Hamon, oui, alors ?
Et il n'a pas pu me répondre, Et après je lui ai dit est-ce que vous pourriez plus facilement gouverner avec Hamon, avec Macron ou avec Mélenchon ? Et il m'a souri et il m'a dit pas avec Mélenchon, voilà.
Ah, donc les,
mais
les...
pour la question européenne, c'est-à-dire une question assez fondamentale.
Donc oui, les cartes sont étonnantes.
Oui, oui. Si on fait l'axe droite-gauche au sein de la gauche, c'est vrai que là, comme ça, on a l'impression que Hamon, dans son discours, dans son vocabulaire, dans ce qu'il agite comme concept, est plus proche de Jean-Luc Mélenchon. Mais en réalité, Hamon est d'une culture
de la gauche du gouvernement, même si en ce moment, pour gagner, il a des accents très utopistes, comme le disait Gilles. Mais il fait partie de cette culture de la gauche de gouvernement. Et même s'il est très utopiste, il n'est pas dans le protestataire, dans l'uniquement protestataire, dans lequel se complaît un peu en ce moment quand même Jean-Luc Mélenchon.
Cyril Graziani est avec nous en direct du studio où dans une grosse demi-heure maintenant, Manuel Valls et Benoît Hamon vont pouvoir débattre. Cyril, quelle oui. atmosphère, une demi-heure donc de l'ouverture des choses?
Vous parliez tout à l'heure des gauches irréconciliables. Pour l'instant, elles ne sont pas réconciliées et n'ont pas l'intention de montrer une quelconque conciliation avant l'heure. Benoît Hamon et Manuel Valls sont arrivés l'un après l'autre sans se croiser peu après 19h30. Ils n'ont d'ailleurs pas prévu de se voir avant le début de ce débat. Manuel Valls et Benoît Hamon ont inspecté le plateau, sont allés voir ce plateau avec le pupitre. Là, au moment où je vous parle, les invités des deux candidats sont en train d'arriver. Ils seront placés derrière les trois présentateurs et c'est assez intéressant de regarder qui les deux candidats ont placé derrière les trois présentateurs, puisque à gauche vous aurez les invités de Benoît Hamon, des quasi inconnus, tandis qu'à droite Manuel Valls a choisi de mettre Jean-Yves Le Drian et Claude Bartolone. On comprend à peu près le message que l'ex-premier ministre souhaite passer en affichant comme ça.
Votez
en
mettant, pour moi, ça en avant, c'est ça le message.
Votez pour la continuité.
Oui.
La gauche.
Votez pour le quinquennat sortant.
Oui, ce qui au pouvoir.
Ce qui semble compliqué quand même. Hein. On n'a pas vu. Cyril, merci d'être intervenu. On vous retrouve dans quelques instants. Il semble assez compliqué d'endosser la continuité justement. Hein. Thomas
oui,
Legrand
je
et l'héritage.
Je ne crois pas tellement en cette gauche irréconciliable à l'intérieur du Parti Socialiste. Je pense que il parlait Manuel Valls quand il a parlé de ça. Parlait plutôt. Peut-être des frondeurs, mais de Jean-Luc Mélenchon, ils sont tout à fait réconciliables. Sauf si, effectivement, si Manuel Valls, et ça c'est de la responsabilité de Manuel Valls, si Manuel Valls, sur un thème particulier qui est la laïcité, et si...
S'il attaque
très fort, il pourrait... Il y a deux solutions pour Manuel Valls. Soit il dit... on n'a pas la même vision de la laïcité, on n'a donc pas la même vision du vivre ensemble, comme on dit, cet horrible mot, ou de la République. Et là, c'est assez irrémédiable. S'il continue à traiter Benoît Hamon d'islamo-gauchiste,
oui, ou de le faire traiter de communautariste,
donc une société très différente, c'est compliqué. Si en revanche, et c'est possible que ça soit ça ce soir, il dit « on veut la même chose », évidemment, tu ne veux pas le communautarisme, mais tu prends des chemins pour y arriver qui, me semble-t-il, ne sont pas les bons, sont des faiblesses et sont dangereux. Si c'est ça, ça reste conciliable. Donc il peut y avoir un divorce ce soir, mais faut rappeler quand même que c'est Benoît Hamon qui a un peu intrigué il y a deux ans avec Arnaud Montebourg pour que Manuel Valls soit Premier ministre. Donc c'est tout ça, ils sont de la même génération, ils sont finalement assez copains, et ils ne sont pas si éloignés que ça. Je crois que Gilles pourra nous
Monsieur
confirmer.
Monsieur le directeur général de la Fondation Jean Jaurès.
Qui les connaît bien tous les deux, pourra
nous
confirmer.
Parole.
Oui, pour revenir sur ce que vous évoquiez, et ce que signifie symboliquement la présence de Jean-Yves Le Drian et de Claude Bartolone derrière les présentateurs dans le camp de Manuel Valls. L'enjeu stratégique, décisif pour Manuel Valls, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de socialistes qui viennent voter à la primaire socialiste. Parce que le paradoxe de ce premier tour, c'est que le problème de Manuel Valls n'est pas qu'il a été minoritaire chez les socialistes, il a fait un excellent score, c'est que les socialistes étaient minoritaires parmi les votants. Et donc l'enjeu pour lui, c'est de réveiller la fierté socialiste et donc d'être, contrairement à ce que vous disiez, d'être dans... On assume le bilan et on veut aller plus loin.
Frédéric Mettezeau.
Oui, l'un des points également de divergence entre Benoît Hamon et Manuel Valls, c'est la question des institutions. Le Parti Socialiste arrive et s'accroche au pouvoir quand François Mitterrand, théoricien du coup d'État permanent, s'installe dans le trône présidentiel avec une majesté tout à fait gaullienne. François Mitterrand, il se fait très bien à la Ve République. Il dit « les institutions de la Ve étaient dangereuses avant moi, elles redeviendront après moi », mais il s'y était très bien fait. Benoît Hamon, lui,
il est plutôt dans une optique de 6e République, contrairement à Manuel Valls, qui certes veut s'affranchir du supprimer le 49-3, sauf pour les textes budgétaires, mais globalement, Manuel Valls est assez tradit en la matière. Benoît Hamon, lui, veut aller plus loin, septennat unique, 49-3 citoyens, etc. Donc là, c'est encore deux thématiques où, pour le coup, ils sont assez différents l'un de l'autre.
Lynn, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui.
On vous écoute, Lynn.
Je voudrais intervenir concernant les éléments de langage de Monsieur Valls, qui se revendique de crédibilité. C'est l'adjectif crédible est intervenu à plusieurs reprises dans son propos, et j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un qui a mis en place le 49-3 peut se revendiquer aujourd'hui de crédibilité, alors qu'il dit que le 49-3 n'est pas une mesure opportune. Mmh. Voilà. Et puis, ce matin, je l'ai entendu sur France Inter, et j'ai été un petit peu surprise aussi quant à son lapsus en ce qui concernait le terme... il a dit qu'il était anti, il voulait dire capitulation de certaines idées, il a dit capitaliste.
Voilà. Lapsus, donc, de Manuel Valls. Merci, Lynn, pour cette intervention sur la question compliquée du 49-3 dans l'entrée en campagne de Manuel Valls. Thomas Legrand ?
Oui, c'est évidemment, c'était une entrée un peu acrobatique, dire je vais supprimer le 49-3 alors qu'il l'a utilisé. Alors, pour être honnête, il explique qu'il faut que les parlementaires soient élus un peu différemment. Il veut modifier, je crois, non pas le mode d'élection, mais le nombre de parlementaires. Enfin, il veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de frondeurs et donc qu'il n'y ait plus besoin de 49-3. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est effectivement cette idée de crédibilité. Il a beaucoup parlé ces derniers temps, Manuel Valls, de la culture de gouvernement. Moi, je suis la gauche de la culture de gouvernement. Donc, de la gauche qui veut rester. C'est toujours un peu compliqué parce que on a toujours quand même un peu l'impression que la gauche qui veut rester au pouvoir et qui a la culture de gouvernement ne peut le faire qu'en oubliant certaines de ses idées. C'est toujours la tension, mais c'est le drame de la gauche, c'est l'intérêt de la gauche, c'est la tension entre l'utopie et le réel qui, depuis encore Guède et Jaurès, se manifeste. Et voilà, je pense que ce soir, on aura encore, il va nous servir la culture de gouvernement.
Il a surtout, juste un petit mot, il a surtout utilisé beaucoup le mot de responsabilité. Il dit toujours qu'il était, lui, en responsabilité. Ça nous a aussi beaucoup frappé dans les débats. Plus que crédibilité, il met aussi beaucoup en avant le fait d'être en responsabilité.
Gilles,
oui. Finkelstein. En fait, c'est tout l'enjeu du débat de ce soir et de la primaire, c'est de savoir quel est l'objet, quel est l'enjeu de ce vote. Et on voit que les motivations des électeurs de l'un et de l'autre sont très différentes. Les électeurs de Benoît Hamon ont d'abord voté parce qu'ils étaient séduits, convaincus par son projet. Les électeurs de Manuel Valls ont d'abord voté pour lui en raison de sa stature, de sa crédibilité. Et c'est toute la difficulté de Manuel Valls. Et ça renvoie à ce que j'évoquais précédemment, c'est que si Manuel Valls veut mobiliser les électeurs socialistes, les électeurs attachés à la culture de gouvernement, cet argument de la crédibilité peut-être lui servir. En revanche, s'il veut convaincre des électeurs de Benoît Hamon de revenir vers lui, ce n'est pas la logique dans laquelle eux-mêmes s'inscrivent.
La parole à Dominique de Haute-Savoie. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Je voulais simplement dire que j'étais très très choquée de l'absence très volontaire de Hollande au vote de la primaire. Et je me demande ce que vos invités en pensent, alors que c'est important. Moi, je suis quand même allée voter. J'étais un peu démobilisée, mais je suis quand même allée voter parce que on vote après tout pour la survie du Parti Socialiste, pour tout un tas de choses. Et je suis vraiment très, très choquée. Je me demande ce que vos invités en pensent.
Voilà. Merci Dominique pour votre intervention. Frédéric Mettezeau.
Moi, je pense que si François Hollande était allé voter à la primaire, il y aurait peut-être eu beaucoup plus de critiques sur ce président qui a promis que jusqu'au bout, il serait chef de l'État, occupé par les questions de diplomatie, de défense, de lutte contre le terrorisme et qui s'abaisse à aller dans le bureau, alors je sais pas s'il serait allé voter à Tulle ou dans le bureau le plus proche de l'Élysée. Je pense qu'il aurait eu autant de critiques critique. La réalité, c'est que cette primaire, à la base, elle est faite pour relégitimer François Hollande. On s'en souvient.
Sur mesure.
Jean-Christophe Cambadélis, au mois de juin dernier, qui dit « ça y est, c'est bon, c'est topé et François Hollande va accepter. On va la faire le plus tard possible, puisque c'est sûr qu'il va être candidat. »
Campagne courte, donc.
Voilà, et tellement courte que lui n'y est pas. Mais une campagne courte, quand on ne s'est pas préparé avant et quand on est comme Benoît Hamon ou Manuel Valls ou tous les autres, c'est beaucoup plus difficile à mener quand on est président. Donc, je pense qu'à la fin, François Hollande, dans son intérêt et vu les critiques qui auraient pu remonter s'il allait voter, a eu raison, je pense, de ne pas aller voter.
Thomas Legrand.
Si on regarde nos institutions, François Hollande est le président de tous les Français. Il est au-dessus des partis, normalement. Ça pourrait paraître étonnant de le voir aller voter, participer à une élection partisane, quand même. À moins qu'il ait décidé, et ça pourrait être vertueux, et c'est ce qu'on aurait pu comprendre, ce qu'on pouvait comprendre quand il a affirmé qu'il était le président normal, qu'il voulait que le président soit désacralisé, ne soit plus cette personne un peu qui est le monarque républicain, et pour casser un peu ce monarque républicain, il aurait pu dire effectivement, je vais voter. Voilà, soyons honnêtes, ne soyons pas hypocrites. Mais pour cela, il aurait fallu que sa présidence ressemble à ça. Or, sa présidence ces derniers temps, c'était tout le contraire. Comme il n'arrivait pas à changer les choses, comme il n'arrivait pas à faire évoluer l'économie comme il voulait, eh bien, il s'est replié vers tout ce qui était régalien, vers tout ce qui était représentation, vers tout ce qui était toutes les cérémonies. Et donc, il a joué. Oui, il a joué le contexte.
L'a poussé.
Oui,
mais
toutes les cérémonies, les commémorations, il a utilisé beaucoup ce côté père de la nation au-dessus des partis. Ça serait bizarre qu'ayant utilisé tout ça, il aille après qu'il redescende dans l'arène partisane.
Anne Muxel, pour poursuivre ce tour de table.
Il est de toute façon dans une situation assez ambivalente, compliquée, inédite, puisqu'il, n'oublions pas, il est un président sortant qui ne se représente pas. C'est une situation inédite, donc il n'y a pas de mode d'emploi quant à sa participation ou non par rapport à une primaire qui sont aussi d'ailleurs maintenant un outil d'expression, un outil démocratique supplémentaire qui n'existait pas non plus dans la culture politique de la Ve République. Donc tout cela c'est nouveau, donc on n'a pas, on peut imaginer que les différents acteurs politiques sont relativement démunis, n'ont pas forcément de mode d'emploi pour réagir. Bon, on peut quand même dire que c'est vrai que de savoir qu'il est au Chili, c'est-à-dire complètement
dans un désert, l'après-midi, un cimetière le matin,
on peut imaginer qu'il aurait pu manifester une présence d'une autre façon. Peut-être.
Gilles Finkelstein.
Je prolonge ce que dit Anne Muxel, situation inédite, on ne mesure pas à quel point jamais, non seulement en France, mais dans toutes les démocraties occidentales, au moins depuis l'après-guerre, un président ou un premier ministre sortant au terme de son premier exercice ne s'était pas représenté. Donc, c'est une situation absolument incroyable.
Même ailleurs, oui d'accord, je n'avais pas mesuré ça.
Quand le 1er décembre, François Hollande annonce qu'il renonce à se représenter, il le fait en disant qu'il n'est pas, il considère qu'il est un obstacle au rassemblement, c'est déjà énorme, il ne faut pas non plus trop lui demander, d'autant que il n'y avait pas de bonne solution.
On va faire un crochet par le QG de Benoît Hamon à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris. Bonsoir Géraldine Allot.
Bonsoir.
Quelle atmosphère chez vous? Ça a l'air, bruyant.
C'est déjà bruyant. Hein. L'ambiance est détendue, déjà bruyante. Il y a pas mal de monde, une bonne centaine de militants, moyenne d'âge assez jeune, autour de 25 ans. Il y a des pannes de bière sur toutes les tables à côté du programme du candidat qui a été distribué à tous les invités. Alors de ce débat, les militants attendent avant toute chose qu'il se passe bien. Ça ne doit pas être un ring de boxe, mais une discussion franche et cordiale entre deux socialistes, m'a dit tout à l'heure Richard, un étudiant en alternance, supporter de la première heure de Benoît Hamon. Il l'a dit en mangeant une planche de charcuterie, hein, c'est l'ambiance bellevilloise. Beaucoup de supporters du député des Yvelines n'ont pas du tout apprécié les propos de Manuel Valls, qui a accusé à plusieurs reprises cette semaine Benoît Hamon d'être accommodant avec les questions de laïcité. C'est nul de sa part, ce n'est pas au niveau d'une campagne, entend-on ici et là. Et on espère bien parmi tous ces jeunes que Benoît Hamon fera preuve de pédagogie pour plier le match ce soir. Seule petite voix discordante que j'ai entendue dans ce concert d'optimisme, Emeline, éducatrice non encartée au PS, elle aimerait que Benoît Hamon précise dans ce débat la faisabilité de son programme sur le revenu universel notamment, Elle attend des précisions sur son financement, sur son calendrier. Manuel Valls va le titiller là-dessus. Il faut qu'il soit béton dans ses réponses, m'a dit la jeune femme. On voit aussi au pied de l'écran géant qui va retransmettre tout à l'heure le débat des proches de Benoît Hamon, le député des Hauts-de-Seine Alexis Bachelet, le député de la Loire Régis Roy-Nicot. Tous les deux ont l'air détendus, l'air de ceux qui sont dans le camp du favori. Mais attention à l'excès de confiance, dit un jeune militant. Souvent, c'est quand on est favori qu'on a le plus à perdre dans ce genre de débat. Sachez enfin que Benoît Hamon est attendu ici à la Bellevilloise après le débat aux alentours de minuit.
Merci Géraldine Allot, en direct donc de la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris. C'est le QG de Benoît Hamon. Il est 20h39. Merci d'écouter France Inter. Dans une grosse vingtaine de minutes maintenant, démarrera le débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon, qu'on pourra entendre bien entendu en direct sur France Inter.
France Inter, édition spéciale. Entre deux tours de la primaire du Parti Socialiste et de ses alliés, Nicolas Demorand.
Cyril Graziani en direct des studios où se déroulera tout à l'heure le débat entre Manuel Valls oui. et Benoît Hamon. Toujours l'atmosphère de gauche assise côte à côte.
Oui, de gauche assise côte à côte. Malheureusement, on ne peut plus trop approcher des invités des deux candidats puisque le plateau va être bientôt fermé, puisque là, ça va commencer dans à peu près 20 minutes. Tout le monde s'est plus ou moins installé, comme je vous le disais. Donc d'un côté, il y a à gauche les invités de Benoît Hamon, à droite les invités de Manuel Valls. Là encore, c'est pas une question par rapport au positionnement politique, c'est vraiment le tirage au sort qui en a décidé ainsi. Et puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Manuel Valls a décidé de mettre en avant particulièrement deux personnes, Claude Bartolone et Jean-Yves Le Drian, quand Benoît Hamon, lui, essaie de mettre en avant des personnalités nouvelles, des visages nouveaux. Pour le moment, donc, le calme est plutôt revenu sur le plateau. On attend les deux candidats qui sont encore dans leur loge. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les deux candidats ne se sont pas croisés du tout depuis leur arrivée, il y a presque une heure.
Cyril Graziani, merci. On vous retrouvera peut-être dans quelques minutes. Sur Facebook, une question de Lilian. Pensez-vous, question d'actualité du jour, pensez-vous qu'après l'affaire Fillon, Madame Fillon, tout peut basculer au standard. François nous demande si Fillon renonce à se présenter à la présidentielle, quelles seraient les répercussions sur les primaires de la gauche. Alors sans aller jusque-là, les répercussions, les échos en tout cas de l'affaire Fillon sur... la campagne présidentielle en elle-même.
On ne peut pas encore savoir. Maintenant, on en est à un stade où une enquête est ouverte et où il faut que François Fillon et Madame Fillon nous prouvent, et c'est loin d'être fait vu tous les premiers témoignages qu'on peut avoir et que les reporters depuis ce matin enquêtent, et ça paraît clair. Mais enfin, François Fillon va essayer de prouver que les 7500 euros par mois, c'était ça à la fin, de Madame Fillon étaient justifiés par un vrai travail, ce que tous les parlementaires, enfin tous les assistants parlementaires à qui on a pu parler, doutent de ça.
Vrai doute. Gilles ?
Oui, on ne sait pas comment on va se... prolonger et se terminer cette affaire. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les comportements électoraux sont très différents de ceux qui prévalaient il y a 10 ans ou il y a 20 ans et que la mobilité électorale est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement qu'avant passer d'un candidat à un autre et que donc tous les événements d'actualité, tous les événements de campagne sont particulièrement importants. D'ailleurs, on l'a vu, même si c'était sur des primaires internes, l'importance des mouvements dans les derniers jours de la primaire de la droite. Et quand on regarde sur la primaire de la gauche, plus de la moitié des électeurs de Benoît Hamon disent s'être décidé dans la dernière semaine. Donc, les événements de campagne, plus qu'avant, c'est déterminant. Et donc, des événements comme celui-là peuvent être dangereux.
Thomas, un mot, puis Frédéric.
En plus, c'est une affaire très simple à comprendre. Hein. C'est pas des financements occultes qu'on comprend rien et on se demande qui manipule qui. Là, il y a quelqu'un qui est payé visiblement à rien faire et qui n'aurait pas dû être payé. C'est assez simple à comprendre par tous les électeurs.
Frédéric Mettezo.
On va laisser le parquet enquêter, mais il y a déjà une collision autour de François Fillon. D'un côté, on a un homme qui dit qu'il y a 500 000 fonctionnaires de trop en France, que la dépense publique est trop élevée, qu'il faut compter sur l'initiative individuelle, qu'il faudra retrouver des incitations pour que les chômeurs retrouvent un emploi. Incitation, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, dégressivité des allocations chômage ou un temps d'indemnisation plus long. Et en même temps, cette personne qui est élue, je crois, depuis l'âge de 28 ans, il en a aujourd'hui aujourd'hui un peu plus de 60, donc qui est payé depuis 40 ans par de l'argent public à salarier sa femme, que ce soit pour un emploi réel ou un emploi fictif, on se rend bien compte que c'est un couple qui a beaucoup vécu grâce à l'argent public, et c'est pas un drame en soi. Le problème, c'est quand on est le candidat de la baisse de la dépense publique et de la baisse de 500 000 fonctionnaires, on risque de lui redire plusieurs fois.
Clément, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de PACA, bienvenue.
Oui, tout à fait, je suis sur la route, merci.
Faites gaffe, pardon.
Je n'ai pas entendu envisager l'hypothèse selon laquelle un certain nombre d'électeurs de la primaire auraient voté Benoît Hamon, non pas par une adhésion totale à l'intégralité de son programme, mais plus en anticipant la déconstruction possible et future éventuelle du Parti Socialiste, réorienter sa reconstruction à venir et notamment virer Manuel Valls. Et voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus.
Voter contre Manuel Valls plutôt que pour Benoît Hamon, Anne Muxel.
Bah, en tout cas,
merci
oui.
Clément.
Oui, cette question est intéressante parce qu'elle pointe finalement une nouvelle logique du comportement électoral. C'est vrai qu'on vote de plus en plus, alors que ce soit à l'intérieur d'une primaire ou pour les élections, on vote de plus en plus contre un candidat pour désélire un candidat que pour finalement exprimer une réelle adhésion au candidat pour lequel on vote. Donc c'est vrai que c'est un comportement que finalement les électeurs sont de plus en plus des électeurs stratèges qui peuvent effectivement changer de choix en cours de campagne et donc vous avez raison de pointer que voilà, il y a en tout cas un nombre important d'électeurs de Hamon qui ont probablement voté pour lui pour sortir Manuel Valls.
Thomas Legrand,
juste,
dans
juste,
la,
juste,
dans tête,
juste un petit mot pour finir. On a vu aussi le phénomène s'exprimer lors des primaires de la droite. C'était la même chose. Beaucoup d'électeurs aussi ont voté pour sortir Sarkozy. Donc voilà. Je pense que c'est un phénomène auquel il faut être.
L'électeur sur stratège qui vote en plus
c'est
très nombreuses fois
dans la tête des électeurs.
Thomas Legrand
et Gilles Finkelstein pourra mieux répondre que nous parce qu'il étudie de près le comportement des électeurs, mais on peut aussi considérer l'inverse, c'est-à-dire que comme on vote souvent contre maintenant au moment des élections, eh ben au moment des primaires, on peut un peu se défouler, se faire plaisir et voter pour. Et François Fillon, c'est plutôt ça, puisque finalement c'était le cœur idéologique de la droite et il a gagné. Et je pense que la primaire de la droite n'était pas une primaire comme la primaire de 2011 où c'était une sélection en 2011. On essayait de voter pour celui qui avait le plus de chances de gagner. Alors que là, à la primaire de la droite, on essayait de voter pas pour celui qui avait le plus de chances de gagner parce que n'importe quel candidat de la droite
sur le papier était
grand favori. Donc
c'est la primaire plaisir.
On pouvait se permettre de voter pour celui qui nous plaisait le plus. Pour la gauche, c'est pareil. Comme il a aucune chance de gagner, autant voter pour celui qui a les idées les plus sympas.
Frédéric Mettezo, puis Valentin au standard.
Oui, c'est exactement, pour rebondir sur les derniers mots de Thomas, c'est exactement ça. Pour qui est-ce qu'on vote? Est-ce qu'on vote pour celui qui a vraiment une chance de devenir président de la République ou est-ce qu'on vote pour celui qui va refonder, rénover, réinventer, appelez ça comme vous voulez, le Parti Socialiste? Il y a des défaites présidentielles qui peuvent être fondatrices. On se souvient de celle de Lionel Jospin en 95, par exemple. Si on regarde les sondages qui, certes, ne sont pas prédictifs, mais quand même, en tout cas, donnent en ce 25 janvier un état de l'opinion publique assez inquiétant pour le PS, il y a plus de chances que le vainqueur de cette primaire soit celui qui essaiera de refonder le parti.
C'est le drame de l'argument de la culture de gouvernement, d'ailleurs, de Manuel Valls.
C'est-à-dire ?
Eh ben, c'est-à-dire que si on invoque la culture de gouvernement comme argument principal, alors que personne ne croit que le vainqueur de cette primaire
peut
va
gouverner,
c'est pas un argument qui marche.
Gilles Finkelstein.
Oui, je partage ce que disait Thomas Legrand. C'est vrai aussi bien sur les primaires de la droite que sur les primaires de la gauche où il y a eu largement un vote d'adhésion et d'une certaine manière, il y a eu de la part de François Fillon et de Benoît Hamon la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé à l'ensemble des Français. Ils n'ont même pas parlé aux électeurs de leur camp. Ils ont parlé l'un et l'autre aux électeurs de la primaire de leur camp qui ont une sociologie très particulière. Et ils l'ont fait pour l'instant. Pour François Fillon, c'est fait. Pour Benoît Hamon, pour l'instant, avec efficacité. Lui s'est adressé davantage à l'ensemble de la gauche, et notamment à la gauche,
Alors,
à la gauche de la gauche. Ouais.
C'est ça qui est intéressant.
Au CSP+, dans lequel il a fait un score bien plus important et qui sont venus voter plus nombreux, c'était plutôt des électeurs de la primaire plutôt que la gauche populaire, et plutôt les actifs qui, on le voyait tout à l'heure, c'est ceux qui sont à la Bellevilloise avec lui. Donc cette stratégie qui est un peu le... Toutes choses égales par ailleurs, la stratégie qu'avait employée François Fillon à la primaire de la droite a été, pour l'instant, en tout cas, une bonne stratégie.
Un problème, Thomas, puis Valentin. Un problème démocratique important. On pensait que la primaire, c'était une avancée démocratique. Peut-être que ça l'est, mais il y a un biais sociologique, on le voit bien. Les candidats, les principaux candidats, sont donc choisis par une sociologie très limitée de CSP+. En ces temps où on prétend essayer de retrouver le vote populaire, c'est assez contre-productif, me semble-t-il.
Valentin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Lyon.
Exactement, je vous appelle d'Auxerre. Alors écoutez, en fait, la petite réflexion moi que je me suis fait, donc du coup qui va se transformer en question, c'est que du coup les débats et vos débats font que nous parlons beaucoup, vous parlez beaucoup des propositions de Monsieur Hamon et donc de son programme, et quand nous parlons de Monsieur Valls, nous parlons essentiellement de ses postures, ses petites phrases, et en fait ses coups bas. Et donc je me demandais si tout le monde fait Monsieur Valls avait réellement un programme à mettre en face de Monsieur Hamon et surtout si, en tout cas, si vos intervenants ont entendu ce programme. Voilà.
Merci Valentin pour cette question. Le programme de Benoît Hamon, les postures de Manuel Valls, Frédéric Mettezeau.
Je rassure Valentin, il y a un programme de Manuel Valls qui est par exemple dans ce supplément très bien fait publié par Le Monde samedi dernier. Défiscalisation des heures supplémentaires. Alors ça tombe mal, c'était une proposition de Nicolas Sarkozy qui avait été détricotée par le gouvernement Hérault juste après l'élection de 2012. Mais Manuel Valls a un programme assez étayé en matière de fiscalité par exemple. Il promet dès le début du quinquennat que la fiscalité des entreprises ne sera pas modifiée pendant 5 ans. Donc ça, c'est un programme très clair de lisibilité. J'y suis arrivé.
C'est un programme
fiscal
statu quo quand même.
Pour les entreprises. Il y a aussi cette histoire du revenu décent. Alors là, qui est un peu plus compliqué à comprendre. C'est pas le revenu universel, c'est le revenu décent qui prévoit de fusionner un certain nombre d'allocations pour les 18-25 ans. En matière d'institutions, Manuel Valls ne souhaite pas de grandes réformes, si ce n'est la baisse du nombre de parlementaires et la limitation des mandats dans le temps. Donc oui, il y a un programme chez Manuel Valls.
Alors on va passer justement chez les soutiens de Manuel Valls. Philippe Randet au pub Patrick dans le 11e arrondissement de Paris. Ça m'a l'air très calme chez vous, Philippe.
Oui, pas de tension, mais de la concentration. Voilà ce que me disait il y a quelques minutes Pierre, un des nombreux sympathisants de Manuel Valls, des sympathisants, des soutiens, qui sont déjà plusieurs dizaines dans ce pub irlandais où ils ont suivi tous les débats précédents. Un pub privatisé qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes, un pub avec un écran géant et plusieurs télévisions où l'ambiance est plutôt sereine. Il y a plus de journalistes que d'habitude, il y a plus d'excitation aussi. Voilà ce que me disait un des membres de l'équipe web de Manuel Valls, une équipe dédié aux réseaux sociaux d'une quinzaine de personnes qui est déjà au travail, hein, chacun devant son ordinateur avec une bière et un burger. On tweet, on partage l'argumentaire, on se prépare évidemment au fact-checking pendant le débat pour pointer du doigt d'éventuelles approximations de Benoît Hamon. Ce sera le débat de la clarification, espère ici les militants qui sont conscients, hein, que la mission de Manuel Valls est plus que délicate. Près de 5 points de retard au premier tour, Manuel Valls et ses soutiens savent qu'il faut être offensif, qu'il faut prendre des risques dans ce qu'ils appellent une campagne totale, mais ils savent aussi que l'ancien Premier ministre n'a pas le droit à la faute. Il faut frapper fort, oui, mais dans le respect. Florence me disait il y a quelques minutes devant un fish and chips, tout le monde est fatigué par la campagne. On espère que ce débat ne va pas déraper. À noter, Nicolas, que Manuel Valls viendra ici dans le 11e arrondissement, dans ce bar irlandais, à la rencontre de ses soutiens. Il est attendu ici entre 23h30 et minuit.
Philippe Randet dans le 11e arrondissement de Paris. Petite note de bas de page, Thomas Legrand, vous qui avez analysé de près la sociologie et la géographie bobo. Entre le 11e arrondissement de Paris pour Manuel Valls et le 20e pour Benoît Hamon.
Oui, c'est deux quartiers gentrifiés, comme on dit. C'est le quart nord-est de Paris, pour ceux qui ne sont pas de Paris et qui ne connaissent pas, le quart nord-est de Paris, où voilà, la population jeune, au capital culturel, pas toujours capital économique, mais au moins le capital culturel élevé. Donc c'est cette sociologie dont parlait Gilles Finkelstein qui est très significative et qui peut être un biais sociologique pour cette primaire.
Bonsoir Gaël.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur Inter.
Bah, merci beaucoup. Hein. Je suis heureux de vous recevoir.
Bah, c'est gentil, nous aussi.
Je voulais juste porter la parole des jeunes, quoi, parce que j'ai 20 ans. Je voulais vous dire que je travaille aussi depuis que j'ai 18 ans. Je suis conducteur poids lourd, si vous voulez savoir. En ce moment, je suis sur la route. Là, je vais terminer à 22h.
Ah,
je voulais vous...
Ouais, allez-y, Gaël.
Allez, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que ces deux candidats veulent faire pour les jeunes, quoi, qui sont au chômage? Ou même pour ceux qui travaillent, quoi, faire quelque chose. Je sais pas, moi, les orienter, par exemple, les orienter pour faire un métier, quelque chose comme ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Moi, c'est juste une question comme ça, quoi, parce que je trouve que les jeunes sont assez mal représentés, voire sous-représentés par les candidats en ce moment, que ce soit de gauche ou de droite. Hein, personnellement, voilà. Il y a aussi, personnellement, je suis de gauche, moi. Je pourrais pas voter à droite. Hein. Pour moi, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais c'est une question que je me pose, les jeunes, qu'est-ce qu'ils sont dans tout ça?
Merci, Gaël, d'être intervenu sur Inter et soyez prudent sur la route. Anne Muxel.
Oui, on est très content d'avoir effectivement ce témoignage d'un jeune, hein, parce que bon, les jeunes sont pas tellement présents dans cette primaire, ils ont peu voté, ils ne votent pas à la primaire, effectivement, cette question interpelle les politiques. Qu'est-ce qui est promis, qu'est-ce qui est fait penser pour la jeunesse de ce pays par les politiques? Souvenons-nous que François Hollande avait quand même fait du cœur de cible de sa campagne la jeunesse, hein, comme un projet pour son programme politique. Il y a des choses qui ont été faites, c'est vrai, mais les jeunes aujourd'hui ne se sentent pas, comme le dit très bien, comme vous le dites très bien, ne se sentent pas portés, encouragés, aidés, orientés. Alors il y a bien sûr des mesures qui sont prises par les deux candidats, notamment Manuel Valls s'est allé assez loin dans l'idée de l'imposition d'un service civil obligatoire. Benoît Hamon, de son côté, prévoit au travers de toute sa réflexion sur le revenu universel quelque chose qui effectivement soit plus une sorte de RSA jeune amélioré, donc une question de voilà des aides. Mais vous avez tout à fait raison de reconnaître qu'en matière d'emploi, de chômage, de réduction du chômage pour les jeunes dans ce pays qui est un problème très important, un quart des jeunes sont au chômage quand même, qui entretient ce pessimisme très fort de la part de la jeunesse quant aux possibilités qu'ils ont dans ce pays de faire quelque chose, de travailler, d'acquérir une indépendance financière, d'être reconnus à la hauteur de leurs compétences. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire que les politiques doivent faire de façon tout à fait urgente, bien sûr.
Les jeunes qui votent, votent beaucoup Front National, Anne Muxel?
Actuellement, dans les intentions de vote, c'est effectivement parmi les tout jeunes électeurs le parti politique qui recueille le plus de suffrages potentiel. Nous sommes à un moment où on mesure des intentions. L'offre électorale n'est pas stabilisée, hein, encore, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a aussi des événements de campagne qui peuvent intervenir, mais cela fait quand même un certain temps que, effectivement, les suffrages des jeunes qui vont voter vont d'abord se porter sur
très
le Front
nettement.
National. Oui, très nettement. Oui, quand même, très nettement.
C'est vous à avez peu des, près... des chiffres.
Oui, c'est encore une fois, je les présente avec
beaucoup de
précautions. Mais c'est actuellement, tel qu'on les mesure, notamment dans le panel électoral que nous menons au CEVIPOF, c'est un tiers des jeunes qui vont voter, par exemple, pour la première fois, les primo-votants qui s'apprêtent à voter pour le Front National.
Un tiers de ceux qui vont voter.
Oui,
c'est la question.
Et au niveau de l'abstention, chez les 18-25 ans, par exemple, elle est mesurée. On sait que la majorité des 18-25 ans ne vont pas voter,
alors,
par exemple.
L'abstention est toujours plus marquée dans la jeunesse. 10 points à peu près, hein, pour toutes les élections, 10 points. Simplement, l'élection présidentielle reste...
que les autres, oui.
L'élection présidentielle reste la plus mobilisatrice pour les jeunes. En 2007, elle a été très mobilisatrice. Il y avait très peu de différentiel entre la participation des jeunes et celle de l'ensemble du corps électoral. En 2012, il y a eu plus d'abstention quand même de la part des jeunes. Un vote aussi de la part des jeunes très modéré, vraiment pour François Hollande. Et là, très difficile de mesurer très en amont de l'élection les intentions de participer ou pas. L'abstention, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions en amont d'une élection en termes de mesures. Mais voilà, parmi les jeunes qui disent qu'ils vont voter, en tout cas, on a cette attractivité qu'on ne peut pas ne pas regarder en face pour le Front National.
Il nous reste une minute et quelques secondes. Gilles Finkelstein.
Alors, je voudrais revenir sur la question de Gaël, parce que ce qui est intéressant avec cette question, c'est que depuis le début, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup concentré sur les divergences entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Eh bien, il y a un sujet sur lequel il y a une convergence, et une convergence qui marque une rupture par rapport aux politiques qui ont été conduites depuis des années. Les jeunes avaient pour caractéristique d'être exclus de la plupart des minima sociaux, et notamment du RSA, et l'un comme l'autre, sous des formes un peu différentes, mais l'un comme l'autre propose que les 18-25 ans, pour une jeunesse dont l'insertion professionnelle et sociale est difficile, que l'un comme l'autre propose que les jeunes puissent avoir accès à ces comme aide à l'entrée dans l'insertion professionnelle.
30 secondes, Frédéric Mettezo.
Dans le même ordre d'idées, deux propositions concrètes pour répondre à Gaël. Ça concerne pas les jeunes, mais ça concerne les bas salaires, et souvent on sait que les jeunes rentrent pas forcément très haut dans les grilles salariales. Manuel Valls propose une augmentation de la prime d'activité. Vous savez, c'est l'ancienne prime pour l'emploi. Augmentation de cette prime d'activité pour ceux qui gagnent moins de 1500 euros net. Et puis chez Benoît Hamon, c'est plus clair. Revalorisation du SMIC et des minima sociaux de 10%.
Les candidats de la primaire socialiste Manuel Valls, Benoît Hamon sont en place. Les intervieweurs aussi. On marque une très courte pause et je vous retrouve donc dans 50 secondes.
Dirigeant de PME, exporter, remporter de nouveaux marchés, c'est avant tout transmettre votre énergie, organiser votre entreprise et former vos collaborateurs. Pour franchir le pas, rendez-vous sur ruedelaformation.org. Venez piocher de bonnes idées, trouver des infos utiles et des réponses à vos questions. Avec ruedelaformation.org, prenez votre visa pour l'international.
Le programme des réjouissances sur Inter, le débat donc du deuxième tour de la primaire socialiste va démarrer en direct sur notre antenne dans quelques instants. Nous nous retrouverons après le débat avec Marion Lourd, avec Frédéric Mettezo, avec Thomas Legrand et avec un certain nombre de nos confrères de la presse écrite pour un premier tour d'analyse à chaud de ce qui se sera dit ce soir entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Je regarde les écrans de télévision et c'est parti. Rendez-vous tout à l'heure sur Inter.
Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir David.
Bonsoir.
Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Bienvenue pour le dernier débat de cette primaire de gauche. C'est le grand rendez-vous avant le scrutin qui se joue dimanche, Gilles.
Oui, bonsoir à tous et tout de suite place aux deux candidats qualifiés pour ce second tour. Bonsoir Benoît Hamon.
Bonsoir.
Bonsoir Manuel Valls.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus, installez-vous. Nous sommes ensemble pendant 1h45. David.
Bonsoir à vous deux. Quelques mots des règles, elles sont simples. Bien sûr, vous aurez le même temps de parole, vous pouvez réagir, vous pouvez vous interpeller. 2 minutes maximum par intervention et puis vous disposerez d'une carte blanche pour énoncer une proposition qui vous tient à cœur. C'est parti pour le grand débat.